Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, un troisième numéro avec vous, frère Éric Bidou.
Bonjour.
Et merci de votre fidélité, toujours ici dans ce sanctuaire de Lourdes pendant ce pèlerinage du Rosaire où vous intervenez. Vous intervenez aussi sur Saint-François d'Assise, voilà, père fondateur, cette grande
fille. Pauvreté embrassée.
Oui, pauvreté qui en dit long. Alors, cette pauvreté embrassée, c'est aussi cet épisode fort, bien connu, ou peut-être méconnu encore pour certains de nos amis auditeurs. L'épisode de François et quand il embrassa et approcha le lépreux.
Alors c'est le passage de la vie, de sa vie, que François retient dans son testament. Il ne raconte pas les autres épisodes, les autres étapes de sa conversion, mais il rapporte cette rencontre du lépreux en disant « ce qui était amer est devenu doux », passage de l'amertume à la douceur, de ce qui est tristesse, enfermement à la dimension relationnelle, à la dimension de la vie qui se donne et qui circule. François, donc, après ou avant, suivant les biographes, être rentré dans Saint-Damien, poussé par l'Esprit-Saint, et d'avoir eu ce dialogue avec le crucifié, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Va et rebâtis mon église. » François est dans la plaine d'Assise, entend la clochette du lépreux, et il est d'abord, souligne bien de ses biographes, Saint Bonaventure, il est d'abord saisi d'horreur parce que le lépreux est tout proche. La lèpre, c'est une odeur, c'est une vue détestable de la chair qui pourrit et donc de la mort qui finalement fait son œuvre et défigure. Et François est d'abord donc saisi d'horreur et puis souligne Saint Bonaventure, se remettant en face de sa décision de vie parfaite, c'est-à-dire voilà, d'une vie nouvelle et d'une vie marquée par la nouveauté de Jésus mort et ressuscité, s'arrête, regarde le lépreux et le prend dans ses bras. Et non seulement il lui donne de l'argent, mais aussi il lui fait l'aumône de sa personne. Alors cette scène, donc François la rapporte dans son testament, et elle évoque aussi toute cette sortie de lui-même, de François, toute cette prise en compte de la misère, de la souffrance, comme portant les stigmates, on peut dire le mot dès maintenant, comme portant les stigmates de la mort de Jésus. En fait, le crucifié auquel il a parlé à Saint-Damien, eh bien, il a un visage, il a des traits, et ce sont ceux du lépreux.
Il avait pris des résolutions, François.
Bah oui, comme nous tous, on en prend au fur et à mesure.
Elles ne sont pas toujours tenues, ces résolutions, renouvelées parfois tous les ans.
Le pire serait de ne plus en prendre. Ça signifierait qu'on n'est plus vivant. Et ça, je le dis souvent quand des personnes disent « oui, mais je n'y arrive pas », etc. C'est une chose, mais ne plus en prendre serait un signe que notre désir est finalement... qu'il n'est plus nourri, qu'il n'est plus alimenté. Qu'il n'y a plus
de désir et que le cœur ne brûle plus.
Voilà, qu'il n'y a plus de désir et que finalement il n'y a plus d'engagement, comme si la désespérance l'avait finalement emporté et le découragement.
Et le ronronnement peut-être aussi parfois dans un chemin de foi et une routine aussi spirituelle même dans la vie sacramentelle.
Oui, bien sûr. Alors... Là, il faut se méfier du fait qu'on ne sent pas nécessairement la manière dont le Seigneur travaille en nous. Et le sentir n'est pas le meilleur gage qu'il travaille. Parfois, ça peut être nous, ce que nous voulons éprouver. Les consolations, pour reprendre ce terme ignatien, voilà, elles sont données par le Seigneur à certains moments, mais surtout, pour qu'on n'oublie pas l'auteur des consolations. Et une consolation, parfois, elle peut nous égarer un petit peu parce qu'on va presque se satisfaire de l'éprouver. Et parfois, c'est dans une aridité, mais une aridité dans laquelle on prend la résolution de demeurer fidèle. Moi, je compare souvent la vie spirituelle un peu à des rivières souterraines. Nous, on est en train, à la surface, parce que nous sommes justement dans cette dimension de notre sensibilité, dans cette dimension de notre corps et qui est bonne. Donc nous, on s'affaire, on s'occupe à la surface. Et le Seigneur, lui, il travaille simplement parce qu'il y aura une fidélité de notre part à la dimension sacramentelle, à la dimension de la charité, à la dimension de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, des moyens ordinaires que recommande l'Église. Et à certains moments, c'est comme la rivière souterraine, elle sort. Et là, on pourra se dire, bah oui, Dieu était présent dans ma vie et je ne m'en rendais pas compte. Et finalement, tant mieux, parce que je serai encore capable d'abîmer ce qu'il me donne.
Et ce bon François, père fondateur de l'ordre des Capucins...
Enfin, de l'ordre franciscain.
De l'ordre franciscain et Capucins, voilà, tout à fait. Ce père François a cette grande paternité. On en parlait tout au début de notre premier entretien, en présentation et en vous présentant. Cette paternité de François est toujours pour notre temps d'aujourd'hui, hein, avec souvent ce que l'on peut entendre, cette carence aussi de paternité, paternité du père dans les familles, paternité aussi dans le sacerdoce. Alors que se passe-t-il?
Alors François, c'est d'abord un fils. C'est d'abord un fils et c'est...
Avant de devenir père?
D'une certaine manière, un peu malgré lui. Un peu malgré lui, parce que voilà, ce qui s'est passé après, il ne l'avait pas du tout anticipé, ni même voulu. Il l'a reçu, accompagné un peu cas un cas. François, c'est d'abord un fils qui découvre Jésus et qui sort de ce fait de... et ça, c'est assez moderne. Et moi, j'insiste pas mal quand j'interviens auprès de séminaristes ou de jeunes en réflexion ou dans divers groupes de jeunes. Justement, François, c'est vraiment le passage de Narcisse à Jésus. C'est-à-dire de ce repli sur soi, de ce qui consiste à tout accaparer, à ne juger que par rapport à sa sensibilité, sans voir que, comme disait le Concile Vatican II, Gaudium et Spes au numéro 24, c'est une des rares références que je connais, la personne s'accomplit dans le don désintéressé d'elle-même. Et François, en fait, il fait sa conversion, c'est vraiment le passage d'une générosité, d'une sensibilité, d'une sensualité, mais qui est totalement ordonnée à lui, par la rencontre de Jésus crucifié à Saint-Damien, le crucifie et par le lépreux, finalement, à l'autre. Et sa vie devient éminemment relationnelle. Elle devient tellement relationnelle qu'elle dit quelque chose, et c'est toute la signification de ses relations très particulières avec la création, le loup, les oiseaux, etc. Elle dit quelque chose, une création réconciliée, restaurée dans la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'on disait de François, c'est l'homme du paradis nouveau. Parce que le Seigneur, il a couru après Jésus qu'il a déjà saisi, comme on lit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3. Et ce faisant, il est réellement fils dans le Fils unique qu'est Jésus. Et travaillé par la grâce d'une manière assez exceptionnelle, il devient l'homme des relations nouvelles. Et on a le cantique des créatures et on a finalement la prédication pendant une dizaine d'années de François qui donne à voir déjà ce qu'est le monde nouveau inauguré par Jésus à sa mort et sa résurrection.
En un mot, quel était le ton de la prédication de François?
C'est une prédication très pénitentielle, c'est-à-dire qui appelait toujours à la conversion, mais qui avait aussi ses premiers mots qu'il avait reçus dans la petite chapelle de la Portioncule, lors de la fête de Saint Matthias et lors de l'évangile de l'envoi en mission. Quand vous arrivez quelque part, dites que le Seigneur te donne sa paix. Ça, c'était les premiers mots de François quand il arrivait. Et ensuite, d'après ce que rapportent les premiers frères, toujours une prédication invitant à la conversion, c'est-à-dire à une vie nouvelle, c'est-à-dire un peu ce qu'il a vécu avec le lépreux. Parfois, c'est l'horreur, parfois, c'est la paresse, etc. C'est la laideur du péché. Mais se remettant en face de sa décision de vie parfaite, eh bien, de passer à l'acte bon. Même un tout petit acte bon, même un tout petit geste, même une toute petite attention, de en tout cas sortir de l'enfermement et du repli sur soi.
Au fond, s'ouvrir à cette fraternité.
Oui.
François, oui. Le relationnel, le grand relationnel.
Mais ça ne se décrète pas de s'ouvrir à la fraternité, ça se vit parce qu'on se reconnaît d'abord pauvre, en besoin de filiation, j'ai envie de dire ça, c'est pas très propre comme mot, en besoin de filiation divine, et finalement, le Seigneur vient combler et donc réouvre, réorganise, restaure les relations.
Au fond, c'est le besoin d'un père.
C'est le besoin d'un père du ciel, mais à condition d'abord de se savoir fils. Et à ce moment-là, les relations nouvelles, dans ce que vous exprimez sur la paternité, les relations nouvelles s'inaugurent. Alors, on pourrait dire d'une formule un peu lapidaire, c'est le ciel sur la terre.
C'est le ciel sur la terre, c'est le ciel ici-bas, dans ce lieu de ce sanctuaire de Lourdes, hein, où nous enregistrons pendant ce pèlerinage du rosaire près de la grotte Massabielle. Merci, frère Éric Bidot, de l'intervention. Et on vous retrouve demain à la même heure.
À demain, merci.